Vous recevrez la vertu de l'Esprit Saint qui surviendra en vous. L'Esprit Saint, c'est l'esprit d'amour et authentique. C'est-à-dire s'occuper des migrants qui sont en train de crever en arrivant sur les côtes. Oui, ça, on peut pas les... Mais par contre, de manière extrêmement polie, leur dire, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de possibilité pour vous, et de les rapatrier, ça, c'est tout à fait possible. Mais on nous dit non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est impressionnant. Donc, mais l'Esprit Saint, c'est la véritable charité. C'est d'abord de s'occuper de ceux qui sont en difficulté. Vous vous rendez compte qu'il y a eu... Vous me rendrez témoignage dans Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, le Christ dit bien, la foi juive va être répandue dans le monde entier. Ça, c'est un motif de crédibilité profonde de la foi catholique. Pas seulement de la foi chrétienne, la foi catholique. Parce que la foi chrétienne a été catholique jusqu'au schisme et aux hérésies. Pendant des siècles, pendant 600 ans, 800 ans, 1000 ans. Et les missionnaires les plus pointus ont été toujours catholiques. Et, alors, c'est un accomplissement d'une prophétie qui est étonnante. Comment ? Si vous voulez, même si les cadres fatigués ont fait du zen et du yoga pour se libérer l'esprit, franchement, hein, des temples bouddhistes, il n'y en a pas énormément à Paris. Ça n'a pas été une traînée de poudre de tous ceux qui en avaient assez de se décontracter par la coque, vous voyez, la cocaïne. Mais finalement, yoga, ça coûte moins cher, et puis voilà, ça vide l'esprit, oui, totalement. Hein, les problèmes reviennent toujours après, il vaut mieux les affronter. Oui. Eh bien, voyez-vous, que quand vous allez à Rome, quand vous allez dans un lieu de pèlerinage comme Lourdes, vous voyez des personnes de tous les pays du monde, de toutes les couleurs, de toutes les cultures, et qui ont modifié une partie de leur culture pour être conformes à la loi de Dieu, c'est quand même effarant. C'est un miracle moral incroyable, l'Église catholique, qu'on le veuille ou non. D'ailleurs, même dans une société qui veut rejeter le fait religieux et qui se moque spécialement des prêtres et de l'Église catholique, le pape est toujours un personnage incontournable, tout le temps, même actuellement. Ça veut dire que dans les événements futurs, le pape aura sa place encore. Aura son mot à dire. Mais qui est cet homme? C'est le chef de l'Église catholique. Et vous avez un chef de l'Église protestante qui a de l'autorité actuellement? Non. Vous avez un chef de l'Église anglicane qui a une autorité? Ben non. Ben, c'est impressionnant, hein. Vous avez un chef des orthodoxes qui a une autorité? Ben non, ils ont voulu faire un concile œcuménique et ils n'y sont pas parvenus. Tous les patriarches orthodoxes, de la Russie jusqu'à la Palestine, tout ça, ont voulu se rassembler, eh ben ils n'ont pas pu, parce qu'il y avait une préséance pour tel patriarche, et donc ils ne sont pas venus. Ils sont boudés. Voilà. Bon, ben, ils n'arrivent pas à se réunir. Qui n'a pas voulu venir? Il y en a eu d'autres, hein. Enfin, ils ont le concile pan-orthodoxe qu'ils voulaient faire a échoué, tout simplement. Voilà. Et le Dalai Lama, franchement, il représente quelques millions de bouddhistes, parce que le bouddhisme tantriste himalayen est un bouddhisme et loin de faire l'unanimité, parce que il estime être Bouddha, le bonhomme, hein, quand même. Hein. Excusez du peu. Mais... Donc les autres bouddhistes, ils disent non, non, non. Il ne s'est pas réincarné. Toi, il a atteint la bouddhéité. Il s'est pulvérisé dans l'atmosphère. Donc nous, on doit le suivre sur ce chemin de pulvérisation. Mais il n'est pas revenu. Ah oui, mais vous êtes dans le grand véhicule. Oui, ben, le grand véhicule. On va vers la stratosphère et taoum. Vous voyez, on redevient une plante. Tandis que le petit véhicule, c'est Bouddha qui se réincarne, qui vient aider les hommes ce qui lui a réussi à se désintégrer, et donc finalement il demande une permission aux atomes de se reconstituer quelque peu pour revenir. Il dit, mais vous avez atteint le nirvana. Oui, mais j'en reviens parce que vraiment je voudrais que vous y veniez aussi. Mais vous avez un désir, vous êtes malheureux alors. Vous devriez être heureux de plus avoir aucun désir. Enfin voilà, donc imaginez le dialogue entre les bouddhistes et Bouddha. Enfin, voilà. Enfin, l'ascension elle-même. Après ces paroles, Jésus conduit ses disciples hors de Jérusalem, dans la direction de Béthanie. Donc, traditionnellement, c'est sur le mont des Oliviers que c'est qu'on considère. Il leva les mains et les bénit. Ah. Tandis qu'il les bénissait, il monta au ciel en leur présence. Bientôt, une nuée, un nuage, vint le dérober à leur regard. Et il entra dans le ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Le ciel, c'est voir Dieu. C'est pas... Parce que le soir venu, eh bien, l'obscurité est revenue dans le ciel de Jérusalem, et Jésus était alors... Il n'était pas dans la nuit. Mais Dieu n'a pas voulu révéler où il se trouve. Les disciples cherchaient encore des yeux, s'élevant vers le ciel, et voici que deux hommes vêtus de blanc parurent debout près d'eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ici, les yeux toujours fixés vers le ciel? Ce même Jésus qui vient de s'élever du milieu de vous dans le ciel en descendra un jour, de la même manière que vous l'avez vu y monter. » C'est clair. Le Christ le rappelle à Sainte Faustine. Dans les apparitions à Sainte Faustine, le Christ dit « Le signe de l'homme apparaîtra », mais ça le Christ l'avait dit aussi, « et j'apparaîtrai ». Et là, ça sera le jugement. Bon, il le rappelle dans les années 30. Après s'être prosterné dans l'adoration, les disciples quittèrent le mont des Oliviers et rentrèrent à Jérusalem, l'âme inondée de joie. Chaque jour, ils étaient dans le temple, louant Dieu et le bénissant. Amen. Plus tard, ils sont allés prêcher par tout l'univers, et le Seigneur, travaillant avec eux, confirma leurs paroles par les miracles qui l'ont suivi. Il est encore une multitude de choses que Jésus a faites et qui ne sont pas consignées dans ce livre. Si on les écrivait en détail, le monde entier ne serait pas capable de contenir tous les volumes qu'elles exigeraient. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Et voilà ce que dit Saint Luc. Saint Luc, c'est celui qui va écrire les actes des apôtres. C'est-à-dire les premiers mois, les premières années des apôtres. Saint Luc était un disciple. Il a pu s'approcher, il a pu parler avec Saint Jean, il a pu parler avec la Vierge Marie. Et on dit que donc Saint Luc, le médecin, puisque Saint Paul dit qu'il est médecin, Saint Luc était peintre à ses heures perdues, et on attribue à Saint Luc quelques peintures de Marie, de la Vierge Marie. Donc ces peintures ont 2000 ans, voyez, et la piété des fidèles a fait que à chaque fois qu'elles s'abîmaient quelque peu, on peignait par-dessus, à côté, mais des modèles du visage de Marie peint par Saint Luc forment le cœur des icônes en règle générale, des icônes grecques. Oui. Nous avons une image faite par les anges dans l'image de Notre-Dame de Guadeloupe sur le pagne de San Diego. Donc, vous avez le visage de Marie. Alors, est-ce que Marie a voulu présenter tel visage parce que, les corps glorieux peuvent apparaître de manière un peu différente, mais nous verrons bien dans la vie éternelle. En tout cas, tous ceux qui l'ont vu ont dit, à chaque fois qu'on essayait de représenter, on a dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Vous voyez, Sainte Bernadette, les enfants de Fatima n'étaient jamais contents des statues qu'on leur représentait parce qu'ils avaient vu un visage tellement beau qu'ils n'arrivaient pas à le reproduire. Alors, on se demande si Saint Luc quand il a écrit les Actes des Apôtres, après avoir écrit son évangile, a vraiment adressé ces Actes des Apôtres à Théophile, qui aurait été une personne, ou alors Théophile au sens grec du terme, celui qui aime Dieu. À tous ceux qui aiment Dieu, Théophile. Mais Saint Luc, qui était un médecin, possédait un très, très, une très belle langue grecque, et il paraît que ceux qui traduisent du Saint Luc sont émerveillés de la manière dont il écrit le grec. Actes des Apôtres, donc, là nous sommes à la page 201 de ce petit Nouveau Testament et psaume du diocèse de Paris. Page 201. Chapitre 1, mais ça selon les noms qui sont donnés par les imprimeurs, par la naissance de l'Église. Mon cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de ce que Jésus a fait et enseigné depuis le commencement. C'est beau, hein? C'est vraiment très authentique. Vous voyez, il dit dans son évangile. Donc il a vraiment écrit cet évangile. Se faire référence, c'est très joli. Jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, dans l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'était montré vivant après sa passion. Il leur en avait donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur était apparu et leur avait parlé du royaume de Dieu. Donc c'est clair. Vous voyez, comment vous savez que c'est 40 jours après Pâques, l'ascension? Eh bien parce que Saint Luc l'a dit. Voilà. Vous voyez, c'est... Voilà, quand on lit la Sainte Écriture, les protestants la lisent à l'endroit, à l'envers, en diagonale, et ils ont malheureusement des pasteurs qui retirent la cohérence de l'ensemble. Mais c'est quand même dommage que des protestants connaissent mieux la Sainte Écriture que nous, qui avons l'interprétation cohérente de toute la Sainte Écriture. Au cours d'un repas, oui, ah, la messe est un repas, oui, mais elle est aussi un sacrifice. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, est-ce qu'il a célébré la messe? On ne sait pas. Il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre ce que le Père avait promis. Il leur disait, c'est la promesse que vous avez entendue de ma bouche. Jean a baptisé avec l'eau, mais vous, dans l'Esprit Saint, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Donc ça, c'est dans les Actes des Apôtres, ces paroles-là. Réunis autour de lui, les apôtres lui demandaient. Les apôtres, hein, ils sont tous à vouloir le pouvoir temporel de Dieu. Hein. Le millénarisme, hein, quand on lit l'Apocalypse, on dit « Et le Christ régna 1000 ans. » Ah, 1000 ans. Donc il sera 1000 ans roi de France, roi du monde, on va dire. Hein. Bon. Ah, oui. Alors, 1000 ans, président de l'ONU et tout. Alors il n'y aura pas de guerre pendant 1000 ans et tout. On sera malade, on mourra. Ah, ça c'est pas précisé. Ah oui, 1000 ans. Et au bout de 1000 ans, Jésus part en vacances, Lucifer revient à la charge. Et c'est la fin. Eh bien, non. La Sainte Église a toujours considéré que ces 1000 ans qu'il y a dans l'Apocalypse ne sont pas 1000 années. Et c'est ce qu'on appelle le millénarisme. Voilà. Faites attention, vous avez certaines personnes pieuses qui disent le Christ va régner pendant 1000 ans sur Terre. Alors, là où vous les piégez, vous dites, est-ce qu'on sera encore malade? Est-ce qu'on mourra? Est-ce qu'il y aura des péchés? Est-ce qu'il y aura des meurtres? Alors que Jésus régnera pendant 1000 ans. Vous voyez. Et là, ils ne savent pas vous répondre. Et en fait, c'est exactement, vous voyez, le souhait des apôtres. C'est, voilà, le Christ est là, et du coup, on ne meurt plus, on vit tout le temps, on gagne toutes les guerres, on est riche. On a tous un iPhone, on a le revenu universel à 3000 euros par mois. C'est mieux que Hamon, quoi. Et voilà. Et donc, le Christ leur dit... Alors, eux, ils disent, « Seigneur, est-ce maintenant que tu vas rétablir la royauté en Israël ?» Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates. » Donc, ça veut dire que ce sont des délais et des dates précises, par contre. Le Christ, quand il va revenir, ça sera fini. Et si vous avez un grand monarque et un grand roi, n'est-ce pas, ben, ça sera pour un temps. Alors, vous êtes content, tout ça, on va gagner des guerres, tout ça, ben, très bien, oui, mais ça va durer 10-15 ans, hein. Vous allez bien rigoler, mais après, vous allez moins rire. Vous voyez ? Voilà. Vous serez mis en prison, tout ça, enfin, vous mourrez, voilà. C'est ça l'Apocalypse, hein. C'est ça la fin des temps. C'est... Même s'il y a le rétablissement d'un roi de France, il n'aura pas d'enfant derrière, hein. Ça... Bon. Donc, c'est très beau d'imaginer la victoire temporelle de l'Église catholique. Mais ça sera un baroud d'honneur, hein. Ça sera pas « Allez hop, on est reparti pour Milan hein. !» Même si peut-être qu'à ce moment-là s'effondrera l'islam et que des musulmans se convertiront et qu'il y aura une véritable comment dire, une véritable lumière pour le monde. Mais ensuite, si vous voulez, Lucifer, lui, gardera des parties pour reconquérir le monde.
Excuse-moi, oui. À propos du millénarisme, on m'avait dit qu'en fait que les églises en Orient avaient conservé la vision des 1000 ans, alors que du côté de Rome, en fait...
Après ah non, Christ, non, avait... pourquoi ? Non, en Orient, non.
D'accord. Non, mais c'est... d'accord, c'était...
Non, qu'est-ce que j'ai dit ? Non, en Orient, non. Non, mais par contre...
Non, je voulais pas dire, parce que j'avais rencontré un prêtre qui était de formation maronite, et expliquait qu'ils avaient une vision qui était un petit peu différente
sur
ce qu'ils avaient.
Sur le millénarisme.
Oui, sur le millénarisme.
Ça, c'est lui qui l'avait. Parce que les maronites sont catholiques et les maronites suivent l'enseignement de l'Église. Qui dit pas de millénarisme. Donc, c'est si vous voulez, c'est un courant millénariste chez les maronites. Mais c'est pas l'Église maronite, l'Église catholique maronique n'enseigne pas le millénarisme.
D'accord.
Mais c'est vrai que c'est plaisant de se dire que Jésus va revenir et va être le Tout-Puissant pendant 1000 ans. Et d'ailleurs, sachez que c'était dans cette fausse mystique que Hitler avait pris le terme du Reich de 1000 ans. Hein. Faites attention. Et si vous avez lu Mein Kampf, moi j'ai lu que des extraits de Mein Kampf, il se dit chrétien, hein, Hitler. Il serait lieutenant du Christ pendant 1000 ans. Voilà ce qu'il prétendait. Ouais. Ben, voilà. Hein. La Vierge Marie, le 8 mai, pam, fini. Le Reich de 1000 ans, ben, il aura duré que 12 ans. Voilà. Déjà pas mal. Les plus grands cimetières de prêtres sont en Pologne, hein. Plus, il a tué plus de prêtres que la Révolution ou que les révolutionnaires d'Espagne, hein, la guerre civile en Espagne. Enfin voilà. Donc soyons très prudents de toute cette mystique qui est très impressionnante et qui fait rêver, n'est-ce pas ? Vous avez des jeunes. Comment dire, qui se disent oui, mais il faut un pouvoir fort, et puis finalement, le Troisième Reich était un pouvoir fort, il faut rétablir un pouvoir fort, on n'est pas nazi parce que, mais on voudrait que ça soit net, clair, avec de beaux uniformes, de beaux étendards et compagnie. Minute papillon, hein, comment dire. Vous savez, ça sera. Si vraiment il y a des guerres, on sera vite. Avec des critères extrêmement simples, justement, hein, de la corruption des mœurs, le parti de la corruption des mœurs sera l'ennemi. Ensuite, comme disait Lionel Jospin en 2002, il n'y a pas de danger fasciste. C'est une blague. C'est Lionel Jospin qui disait ça. Hein. Et en effet, je vois mal actuellement des populistes ou des nationalistes faire des camps de concentration pour les gens. Enfin bon. Tandis que le jour où on est ennemi des droits de l'homme interprétés de manière universelle, là, on pourrait nous empêcher de nuire en nous mettant en prison. N'oubliez pas le délit d'entrave par rapport à dissuader les gens sur Internet d'avorter. C'est du droit pénal, hein. Donc, ce genre de choses peut évoluer.
J'ai une question.
Oui.
Le Messie va revenir, mais c'est la même...
Non, le Messie va venir.
Il y a une différence de degré.
Eh bien, pour les Juifs, en soi, le retour, enfin, la venue du Messie est une venue principalement pour leur peuple et qui va apporter le bonheur au monde entier, mais principalement à eux. Vous voyez ? Et avec un règne très temporel, très terrestre, mais très religieux. Ce qui fait que les Juifs pieux, lorsque le temple, la mosquée du Dôme sera détruite, et que avant, pendant ou après la guerre, on reconstruira le temple de Jérusalem, eh bien, cet homme providentiel et merveilleux, jeune et séduisant, qui va être acclamé dans le temple des droits de l'homme, reconstruit réconcilier toutes les religions du monde dans un lieu symbolique qu'est Jérusalem et sur l'esplanade du temple par-dessus le marché, eh bien lui, voyez-vous, il sera pour l'euthanasie d'amour, pour la GPA de compréhension, pour l'avortement de liberté. Et les Juifs pieux, ils vont dire, mais c'est quoi ça? Tuer les enfants, tuer les vieillards et les dépressifs, c'est pas le Messie. Et là, ils vont avoir un gros cas de conscience.
Parce qu'en lisant là, tes apôtres,
oui.
Il n'y a pas un mot pour les Juifs. Il leur parle, mais il est apparu aux apôtres, mais pas, il n'est pas apparu aux...
Oui, mais ils sont tous Juifs.
Oui, mais je veux dire, il n'est pas apparu aux rabbins qui l'ont connu la mort.
Ah ben non.
Pourquoi il n'a pas apparu
Ben parce qu'ils pouvaient s'informer très facilement auprès des apôtres. Les apôtres prêchaient tous les jours dans le temple. À un moment donné, le Christ, si vous voulez, il a été assassiné. Donc, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais bon, voilà, hein. Donc, il ne va pas exprès leur dire « Oui, c'est moi, je suis Jésus, doux et humble de cœur. Maintenant que vous m'avez tué, vous allez vous convertir. » Et là, vous avez le grand prêtre qui est là, il dit « Qu'est-ce que... Tuez-le à nouveau. » Non, ça va. Jésus n'est pas masochiste. Et donc, il laisse des saints et des saintes montrer par l'exemple et toucher les cœurs. Que ce soit des rabbins, que ce soit des juifs, que ce soit des hindous, que ce soit des bouddhistes, que ce soit des celtes, des druides et autres personnages, parce qu'à un moment donné, si vous voulez, il a suffisamment fait.
Son peuple est mieux l'origine, quoi,
l'alliance. Ah, tout à fait, et c'est pour ça que le peuple juif, vous avez remarqué qu'il reste toujours. Pourquoi ? Parce que ça fait quand même 2000 ans que notre Seigneur a dit aux Juifs, vous me reverrez, quand vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc ils le diront, parce que cette parole est un peu forte, mais ça veut dire qu'ils le diront. Vous ne me reverrez que lorsque vous direz, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Lorsque les Juifs pieux diront, béni soit Jésus notre Messie et notre Dieu, alors là, comptez vos abattis, hein, parce que c'est exactement le moment du retour du Christ.
Pourquoi ça n'a pas fait aller à l'époque ?
Comment ?
J'ai toujours compris ce hiatus qu'il y a, en lisant ces documents-là, que j'ai toujours appris. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas parmi les Juifs, qu'ils avaient persécuté ? C'est un truc qui m'a toujours échappé.
Eh bien parce que nous-mêmes, il ne nous apparaît pas. Parce qu'il faut qu'on mérite la foi. Parce que la vision, c'est trop... si vous voulez, un miracle, c'est impressionnant. Hein, pour ne pas croire à un miracle, il faut quand même être dur. Et, or, en Égypte, vous avez la Marie, la lumière d'une femme en robe comment dire, lumineuses, avec trois croix lumineuses, pendant des heures, devant des milliers d'Égyptiens qui ont vu ça, et les musulmans qui ont vu ça. Alors pourquoi ils ne sont pas tous convertis? À mon avis, certains se sont convertis.
Pourquoi les juifs ne croient toujours pas en Jésus?
Eh bien, parce qu'il y a une sorte d'aveuglement, et puis aussi, si vous voulez, eh bien, ils peuvent se sauver en étant de bonne foi et en choisissant tout ce que l'Esprit Saint leur montre de bon et de bien. Mais dans leur éducation, on leur a dit « Jésus est un imposteur, Jésus n'est pas le Messie, Jésus est un imposteur », donc ils sont là, et ben, on va quand même pas croire en celui qui a abîmé autant notre religion. Attendez. Et autre chose, au moment de l'Antéchrist, puisque l'Antéchrist sera juif, reconstruira le temple de Jérusalem et prétendra, si vous voulez, avoir l'ancienneté de cette religion pour gouverner le monde, vous voyez, eh bien, il faut qu'à ce moment-là, des juifs disent « Non, ce n'est pas notre Messie. » Et saint Paul le dit clairement. Hein. Il dit « À la fin des temps, quand toutes les nations auront entendu parler du Christ, et c'est fait, les juifs entreront dans le royaume des cieux. Et leur relèvement offrira une grâce et une lumière au monde. Quelle sera cette grâce, puisque leur chute a permis à plein de peuples de connaître le vrai Dieu. Non ? Et c'est saint Paul qui commente et dit, puisque leur chute a permis à plein de peuples de connaître Dieu, quelle sera la grâce de leur relèvement ? Quand les juifs témoigneront en disant, eh bien Jésus, eh ben, c'était notre Messie. Non, mais la tête de tous les journalistes dit, non, ben, crois. C'est pas possible. Jésus, pour vous, était votre Messie. Ben oui. Vous êtes trompé pendant 2000 ans? Ben oui. C'est ce qu'un rabbin avait dit à une jeune femme qui a dit, mais Jésus est notre Messie. Est le Messie. Et, mais qu'est-ce que vous dites? Alors, mais qu'est-ce que ça signifie, en fait? Alors, ça voudrait dire qu'on se trompe depuis 2000 ans? Et ben, elle a dit, ben oui. Non. Oh, c'est vexant. C'est vexant, mais si vous voulez, si on connaît bien la morale humaine, c'est pas destructeur. On peut être dans l'erreur. Vous voyez ? De la même façon que le petit Inca, lui, était dans l'erreur. Et si, quand à chaque fois qu'il voyait des sacrifices humains, il disait, bah, dis donc, Dieu, vous aimez ça ? Vous voyez ? Et vous avez des personnes qui ont été dans des religions diverses et variées, et qui ont sauvé leur âme parce qu'ils suivaient très précisément la loi de leur conscience, regrettant le mal qu'ils faisaient et désirant le bien. C'est seulement comme ça qu'on peut se sauver, par contre. Oui. Alors vous avez ce qu'on appelle les fidéistes qui disent, eh bien tous ceux qui n'ont pas connu Jésus en tant que tel et comme Messie du peuple juif et sauveur et crucifié et ressuscité sont tous damnés. Ça veut dire que sur le continent américain, vous voyez, avant l'arrivée des missionnaires, tout le monde se damnait. Ça fait, c'est un peu lourd, hein. Et c'est faux. Vous voyez, puisque saint Paul lui-même, dans l'Épître aux Romains, dit bien qu'on peut se sauver si on croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur. C'est-à-dire qu'il pardonne le péché et récompense le bien. Et donc Jésus fait de la politique, comme moi un peu ce soir. Jésus leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les délais et les dates que le Père a fixés dans sa liberté souveraine. » Donc voilà, on va attendre encore 10-15 ans. Et après, ça sera la fin des temps. Voilà. Ou 50 ans. Ou 500 ans. 500 ans en purgatoire pour avoir été comme ça, pour avoir manqué d'espérance et de charité. Alors toujours à l'un à l'un. Vous voyez, imaginez dans 70 ans, donc moi je serai au purgatoire depuis un certain temps, je ne pense pas atteindre 107 ans, non, 117 ans, n'est-ce pas? Donc je serai là, au purgatoire, et là il y a un ange qui arrive et qui me dit « Alors, la fin du monde n'est toujours pas arrivée en haut ?» Là, je me tairai, d'abord j'aurai de la lave dans la bouche, donc... J'aurais du mal à parler. Et, mais c'est... Imaginez, hein, je sois là depuis, je sais pas, 20-30 ans au purgatoire, et que la fin du monde soit toujours pas arrivée en haut. Je veux dire, oui, mais enfin quand même, hein, avec Internet, toutes ces âmes qui se perdent, les avortements, tout ça, la GPA qui est maintenant généralisée dans le monde entier, il n'y a plus aucune monnaie, maintenant tout se fait par puce, comment dire, c'est ce monde extraordinaire où il n'y aura plus de monnaie, et où vous aurez tous un fichier informatique qui vous permettra d'être soigné, de faire tous vos achats dans un monde merveilleux. En Corée du Sud, ils vont supprimer les pièces de monnaie. Ils n'ont pas encore supprimé les billets, mais ils disent maintenant que 80% des Coréens du Sud ont une carte de crédit, mais petit à petit, à un moment donné, il n'y aura plus besoin de monnaie. Ce sera que des cartes de crédit. Non. Donc, quoi que vous fassiez, comme dit l'Apocalypse, vous ne pourrez ni acheter ni vendre sans la carte de crédit. C'est extraordinaire. Bon. Alors Jésus est beaucoup plus spirituel que ses prêtres politisés et dit « Mais vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit, qui viendra sur vous. Alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Ça, c'est extraordinaire.